France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui une figure étrange à la cour de Napoléon, Catherine Hubschaire, femme du maréchal Lefebvre et plus connue sous le nom de Madame Sans-Gêne.
Ah ben, oui, sire, c'est moi.
Ah, pensiez-vous que ma cour pût être confondue avec un halo-poisson ?
Je suis la femme de Lefebvre, moi, figurez-vous.
Savez-vous bien, madame, que votre franc-parler pourrait vous mener plus loin que vous ne pensez ? Vous vous exprimez comme un grognard.
Deux mille ans d'histoire. Un jour, jalouse des honneurs dont Napoléon avait couvert la maréchale Lefebvre, Madame de Lusignan avait demandé à l'empereur « Pourquoi votre majesté a-t-elle laissé tomber le titre de duchesse sur Madame Lefebvre ?»« Madame, répondit Napoléon, il m'a plu au contraire d'élever le titre de duchesse jusqu'à la maréchale Lefebvre. » L'empereur prenait ainsi la défense de celle qui venait de faire duchesse de Danzig et dont les origines modestes, les manières et le franc-parler scandalisaient la cour impériale. Il faut dire que jamais dans l'histoire on avait vu monter si haut et si vite des hommes et des femmes venus du plus bas de l'échelle sociale. C'était l'époque où, pendant la Révolution et l'Empire, chaque soldat portait dans sa giberne un bâton de maréchal et où une blanchisseuse illettrée, Catherine Hubschaire, et son mari, un ancien caporal de Louis XV, François-Joseph Lefebvre, était devenu le premier duc et la première duchesse de la noblesse impériale.
Eh ben, dis donc, il ne fait pas les choses à moitié, ton patron. Une couronne chacun. On a beau dire, ça fait drôle, non?
Ah oui, mais vu mes états de service...
Oh, oui, mais quand même, écoute...
Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? J'ai suivi la filière, moi.
Oui, oui.
Tiens, sergent, capitaine, commandant, colonel, général, maréchal, duc et roi. Je suis passé par l'ancienneté.
Oui, mon zizik. Mon zizik premier.
Hey, attention, Catherine, attention, un peu de tenue, quoi, tu es.
Oh, c'est vrai.
Ben, dis donc, est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a pas 200 mètres d'ici à mon ancienne boutique? On en a fait du chemin de 100 mètres, et ça n'a pas été long. Tu te souviens quelle chaleur? T'étais prêt à te faire tuer pour prendre les Tuileries et foutre le roi dehors? Hein?
Mais aujourd'hui, les Tuileries, on est dedans. Et le roi, c'est moi.
Madame la Duchesse et Monseigneur le Duc de Danzig.
Christophe Dagios, bonjour.
Bonjour.
Alors, le Duc de Danzig, c'était le maréchal Lefebvre, et la Duchesse, sa femme, c'était une ancienne blanchisseuse, Catherine Hubschaire, plus connue aujourd'hui sous le nom de Madame Sans-Gêne. Madame Sans-Gêne qui a inspiré des quantités de films, comme celui dont on vient d'entendre un extrait, des pièces de théâtre et même un opéra. Mais alors, curieusement, une seule biographie, la vôtre, qui a été publiée il y a 4 ans aux éditions La Nuit est Bleue, Madame Sans-Gêne. Alors en fait, la maréchale Lefebvre n'a jamais porté ce surnom de son vivant. Je crois que c'est une pièce de théâtre qui, 60 ans après sa mort, lui a donné ce surnom de Madame Sans-Gêne.
Tout à fait. Il se trouve que Victorien Moreau, Victorien Sardou et Émile Moreau, lorsqu'ils ont eu l'idée de faire une pièce, avaient d'abord pensé à une femme soldat qui s'appelait Thérèse Figuer, qui sur le champ de bataille, au milieu de la troupe, se faisait appeler Sans-Gêne. Mmh. Voilà. Et,
Sous l'Empire. Hein,
sous l'Empire, tout à fait. Émile Moreau avait eu cette idée, et Victorien Sardou, qui était un petit peu plus expérimenté dans l'art du théâtre, lui avait dit, non, écoutez, il faut, je crois, prendre quelqu'un qui a un peu plus une figure plus importante de l'Empire, et il a pensé à cette maréchale Lefebvre qui avait laissé véritablement des traces chez les mémorialistes, et ils ont décidé à la fois de garder ce surnom de Sans-Gêne tout en finalement l'appliquant à Catherine Hubschaire, la maréchale Lefebvre.
La pauvre Thérèse Figuer donc est dépossédée de son surnom au profit de cette maréchale Lefebvre qui s'appelait en fait Catherine Hubschaire, qui est née en 1753 et en Alsace, et dont les origines sont au moins aussi modestes que celles de Thérèse Figuer. Hein. Elle était née d'un père bûcheron, je crois, on ne sait pas très bien, bûcheron ou braconnier.
Non, c'est pas très bien. Bon, c'est une période un petit peu troublée dans cette région-là à l'époque. Toujours est-il qu'elle naît dans un petit village de la vallée de Saint-Amarin, une fratrie de 5-6 enfants. C'est un milieu très très modeste, effectivement, mais où il y a des valeurs, hein, des valeurs de travail, à tel point d'ailleurs que le père devient à un moment petit bourgeois, hein, dans une petite ville de Villers. Et à la fin de sa vie, il laissera un petit héritage, un petit pécule, hein, qui sera transmis à sa veuve, qui elle-même, hein, permettra de faire vivre un de ses fils. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, on retrouvera Catherine Hubscher à Paris, question d'héritage.
Parce que, bon, il n'a quand même pas les moyens de lui offrir des études. D'ailleurs, Catherine Hubscher, la future Madame Sangène, ou la future maréchale Lefebvre, ou la future duchesse de Danzig, c'est la même, eh bien, elle était restée illettrée. Ça avait beaucoup surpris, évidemment, beaucoup plus tard, quand elle deviendra duchesse. Mais elle est au début, elle travaille très tôt, très jeune, puisque son père, je crois, la place comme lingère, hein, chez un maître des forges. Et puis après, c'est donc Paris. C'est Paris où là, elle est domestique.
Alors c'est Paris parce qu'il faut bien en faire quelque chose de cette fille un petit peu, je dirais, bien charpentée à quelques égards, si je puis dire. Hein. Et elle a été domestique déjà dans son Alsace. Et finalement, à l'époque, il faut quand même savoir qu'à Paris, une personne sur trois est domestique. Hein. La ville a besoin de domesticité. Et elle va donc naturellement, si je puis dire, elle est placée dans une maison.
Et c'est là qu'elle va rencontrer Catherine Hubscher, qui est encore Catherine Hubscher, rencontre un caporal des gardes françaises de Louis XV, dont elle va partager le destin extraordinaire, François-Joseph Lefebvre.
Moi, c'est Catherine. Et toi?
Au moins, François.
Pourquoi me regardes-tu comme ça?
Si j'étais tué, ma tête.
Quoi?
Est-ce que tu t'en souviendrais de ma tête?
Ta tête. Tiens, c'est comme le linge. Je vais la marquer pour la reconnaître. Dis donc, François.
Je me prends quand tu m'appelles François.
Pourquoi?
Tout le monde peut s'appeler François. Tandis que Lefebvre.
Pour moi, il n'y a qu'un François et qu'un Lefebvre aussi, d'ailleurs. Et c'est le même. Mon Lefebvre. Mon François Lefebvre, mon sergent, mon supérieur.
Et c'était un autre extrait du film de Christian Jacques, Madame Sangène, avec Sophia Loren dans le rôle-titre et Robert Hossein dans celui de François-Joseph Lefebvre, qu'elle épouse donc en 1783. Ça va être un mariage plutôt heureux, c'est pas comme dans la noblesse, on s'aime vraiment, à tel point d'ailleurs, je crois, qu'elle lui fera 14, en tout cas plus de 10 enfants. Mais ce Lefebvre lui-même est d'origine assez modeste, Christophe Nagios.
Alors il est
alsacien aussi.
Il est alsacien, il est natif de Rouffach, engagé dans les gardes françaises à peu près à l'âge de 20 ans. Et bien sûr, il est parisien, hein, il se rend compte, on ne sait pas très bien, probablement dans une grande maison aussi. Il est caporal, instructeur, c'est quelqu'un de rigoureux, hein, qui, je crois, aime beaucoup la discipline. Et ils vont se rencontrer, les hasards de la vie, comme aujourd'hui finalement. Hein, ça n'a rien d'exceptionnel non plus.
Mais ce mariage, donc, est un mariage, je crois qu'ils sont restés fidèles l'un à l'autre. Enfin, contrairement à ce qui se passe, effectivement, dans l'aristocratie de l'époque, et même plus tard, sous le Directoire, avec la Révolution, c'est un mariage d'amour, à l'évidence. Et encore une fois, je le disais, parce que ça m'a beaucoup frappé en vous lisant, ils ont, ça c'est assez fréquent à l'époque, ils ont énormément d'enfants. Elle a accouché, je crois, 14 fois. Mais alors, la plupart du temps, ce sont des enfants morts très jeunes. D'ailleurs, ils mourront eux-mêmes sans aucune descendance. Tous leurs enfants ont disparu.
Alors, c'est un véritable drame dans leur vie, c'est vrai, ces 14 enfants.
Entre 11 et 14,
vous dites, parce qu'on sait pas très bien. Ce serait 10, ça serait déjà énorme. Hein. Deux enfants qui vont arriver à maturité, on parlera de l'un d'eux un peu plus tard. Hein. Effectivement, mais en même temps, elle fait face, hein, à cette difficulté et elle les surmonte. Et en tous les cas, elle ne se plaint pas. Elle ne se plaint pas,
elle reste une femme,
et elle reste une femme tout à fait optimiste.
Alors, donc, il y a ses enfants, ils se marient, hein, en 1783, 6 ans avant la prise de la Bastille, à laquelle, je crois d'ailleurs, lui-même va participer comme sergent, n'en est pas sûr, avant de devenir lieutenant de la garde nationale de Paris en 1789. Et là, alors, commence, comme d'ailleurs pour lui, pour Lefebvre, comme pour beaucoup d'autres soldats de l'Ancien Régime, une ascension incroyable, puisque ce caporal avait mis 16 ans à devenir sergent sous l'Ancien Régime, et il a mis 5 ans à peine avec la Révolution révolution pour passer du grade de sergent à suite générale. C'est incroyable cette ascension dont, évidemment, va profiter aussi sa femme.
Alors bon, la Révolution française brise hein, les conventions qui avaient leur jusqu'à ce moment-là. La Révolution française permet effectivement aux soldats sortis du rang d'accéder au poste d'officier. Et effectivement, en 4 ans, il va parvenir à être général, donc officier supérieur. Hein, mais lui aussi, comme beaucoup d'autres, hein, comme Hoche, également garde française, comme Marceau, comme d'autres, qui vont tout d'un coup se voir ouvrir... Hein, la haute hiérarchie militaire, tout à fait.
D'abord parce qu'il y avait eu beaucoup de défections avec l'émigration du côté des officiers d'ancien régime qui étaient obligatoirement de l'aristocratie, alors que justement les grades d'officier n'étaient pas autorisés hein, aux gens du tiers état. Et alors il va grimper comme ça en grade. Mais enfin, il participe, il donne du sien. D'abord, il participe à beaucoup de journées révolutionnaires. Je crois que le 10 août, il était là lors de la chute des Tuileries, non
Tout à fait.
Mais en même temps,
ça reste un homme d'ordre. Hein, Lefebvre, il est fidèle au pouvoir, non pas sans raison non plus, hein, mais ça reste un homme d'ordre. C'est-à-dire que pendant la Révolution, il défend la famille royale parce que c'est ainsi, on lui a demandé de défendre la famille royale. Il ne participe pas aux exactions, mais il est aussi engagé dans la Révolution. Il participe à plusieurs assemblées hein, démocratiques. Et puis, chose assez importante quand même, il a une carrière, il aura toute sa vie une carrière de franc-maçon qui sera très importante, je crois, dans son avancement et dans son éducation. Aussi.
Et puis surtout soldat, il participe à presque toutes les batailles de la Révolution et de l'Empire.
Absolument.
Il était, je crois, à Fleurus. Et il est tellement célèbre d'ailleurs qu'à un moment donné, sous le directoire, on pense à lui comme directeur. Et là, il refuse assez curieusement, alors que directeur, c'était un des 5 chef de gouvernement, enfin c'était le gouvernement de l'époque, le directoire.
Alors Lefebvre était un militaire valeureux, combatif, soudard pour certains, mais un politique relativement moyen, faut le dire. Hein, et effectivement, une fois ou l'autre s'est présenté à lui de pouvoir se présenter, ceci ou là, à telle ou telle place, ça n'a jamais été vraiment le cas.
Alors il refuse en tout cas de ce poste de directeur, je crois que c'est sa femme qui disait « t'es pas fait pour ça, t'es fait pour le combat, pour la paternité ». Il participe, alors en revanche, il va s'associer évidemment au destin de Napoléon qu'il rencontre très tard en 1799 et avec lequel il va participer au coup d'état de Brumaire puisqu'il dirige, je crois, l'armée à Paris à ce moment-là. Et puis Napoléon, alors du coup, va faire sa carrière. Il le fait maréchal en 1804 et même en 1807, premier duc et sa femme première duchesse de la noblesse impériale, mais sans que ni l'un ni l'autre ne renie leurs origines sociales, ni les manières d'ailleurs, qui surprennent la nouvelle noblesse de l'Empire.
Monsieur le duc et madame la duchesse attendent votre excellence.
Entrez, entrez, Fouché.
Entrez, mon cher duc.
Bonjour, mon cher duc.
Bonjour, mon cher duc.
Mes hommages, madame.
Vous m'excuserez, hein, mais les chemises de Lefebvre, c'est toujours moi qui les repasse. Pas vrai, Zizig?
C'est moi, Zizig.
Oui, c'est plus gentil que duc de Danzig, non? Tenez, c'est comme l'empereur. L'idée de l'appeler majesté, ah non.
Il m'a chargé de vous inviter à une réception à la cour qui aura lieu dans 3 jours.
À la cour? Moi? Hé, hey, Zizig! Tu me vois à la cour?
Bah, allons, Catherine.
Après tout, elle a peut-être raison de ne pas paraître aux Tuileries.
Ah ouais?
C'est plus prudent.
Plus prudent?
Mais oui, à quoi bon vous exposer inutilement? Tous ces gens qui vous guettent, qui aimeraient vous voir tomber. Les sœurs de l'empereur, par exemple.
Eh ben, si c'est ça, j'irai aux Tuileries. Et on verra lesquelles mangeront qui et qui mangera lesquelles. Si elles masticotent, ça fera du bruit.
Pas les belles manières.
Madame Sangène, Annie Cordy, inspirée elle aussi par Madame Sangène, duchesse de Danzig en 1807 et déjà maréchal Lefebvre depuis 1804. Pourquoi est-ce que Napoléon, qui connaissait à peine Lefebvre, qui n'avait jamais battu, qui s'était jamais battu à ses côtés, a-t-il couvert comme ça d'honneur et le maréchal, enfin et Lefebvre et sa femme? Ça peut paraître surprenant, Christophe Nagios.
Je crois que d'abord, Napoléon lui-même sait ce qu'il doit finalement à tous ces soldats de la Révolution, qui ils soient. Par ailleurs, je crois qu'il...
Mais tous ne sont pas devenus maréchaux. Un des 16 maréchaux de Napoléon, c'est Lefebvre.
Oui, mais je crois qu'il est emblématique, si vous voulez. Il est vraiment emblématique de ces parvenus, finalement, de l'histoire et de l'Empire. Donc c'est une manière, je crois, de reconnaître ça. Quelque part, il a joué probablement Napoléon de cette ambiguïté à la cour entre la noblesse historique, si je puis dire, surtout lorsque l'Empire sera bien installé, et puis cette noblesse de parvenus, je crois que ça l'a amusé, certainement.
Oui, et puis alors, non seulement un des 16 maréchaux, mais voilà qu'en 1807, après une bataille gagnée par Lefebvre dans des conditions plutôt pénibles, à Danzig, il s'empare de la ville après un siège éprouvant, voilà qu'il fait de Lefebvre et de sa femme le duc et la duchesse de Danzig et les premiers ducs de la noblesse impériale. Alors là, c'est vraiment les mettre en tête.
Oui, il se souvient quand même que Lefebvre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, était présent à ses côtés lors de le coup d'État du 18 rue Rumer. Encore une fois, Napoléon distribue ses titres de noblesse comme il l'entend.
Oui, mais le premier, comme ça.
Ça aurait pu être Kellermann, effectivement, mais je crois que c'est une manière aussi d'asseoir véritablement son pouvoir. Et il va distribuer à peu près 800 titres nobiliaire jusqu'en 1815.
Oui, il y en aura d'autres après. Oui.
À d'autres, bien sûr. C'est une manière véritablement de montrer son attachement au populaire aussi. Lui-même, après tout, Napoléon, on sait les difficultés qu'il a eues à réunir sa famille, à réunir ses titres de noblesse. Lui-même ne s'exprimait pas toujours de manière tout à fait très académique. Donc, je crois qu'il a aussi une véritable affection pour eux, tout à fait. Oui.
Mais alors, justement, quand vous parlez d'expression, n'en parlons pas pour ce qui concerne Madame Lefebvre. Parce qu'elle arrive, elle devient maréchale, elle devient duchesse, elle a ses accès aux Tuileries, elle obtient une espèce d'hôtel particulier. Alors là, je trouve dans votre livre un certain nombre d'extraits de mémoires de gens qui ne l'aimaient pas beaucoup, mais qui racontent comment elle s'y prenait. Par exemple, elle arrive chez elle, elle dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Madame la maréchale, c'est une bibliothèque. À quoi que c'est bon ? À serrer les livres, madame. Ah, cette bêtise, mon mari n'est pas liseur, je ne suis pas lisarde, ainsi j'en ferai mon fruitier. » Et comme ça, il y en a partout des réflexions qui étaient connues. Un jour, elle s'adresse comme ça à d'autres duchesses et elle dit « C'est nous qu'on est les duchesses ». C'était fabuleux ce langage, en plus avec l'accent alsacien, de Madame Lefebvre à la cour.
Elle décide très certainement de ne pas singer finalement une culture, des pratiques, des conventions qu'elle n'a pas. Elle sait qu'à l'âge de 40-50 ans, elle va arriver finalement à ce statut assez tardivement dans sa vie, qu'elle ne pourra pas rivaliser. Et d'une certaine manière, elle retourne à la situation en se disant « je vais rester moi-même, je reste moi-même, j'ai mon langage, j'ai les honneurs, j'ai de l'argent, mon mari est maréchal, duc d'Empire, et puis, comme on dit en alsacien, sèche-seau, c'est comme ça. »
Et alsacienne d'ailleurs jusqu'au bout des ongles, au point que, je l'ai appris en vous lisant, Christophe Nagios, c'est elle qui a introduit, qui a fait connaître la choucroute à Paris.
Oui, tout à fait. Elle avait des relations régulières avec quelques amis en Alsace et elle se faisait livrer des tonneaux de choucroute. Absolument, oui.
Et puis très fière, comme son mari, de leurs origines sociales, il y a cette très belle formule, j'ignorais qu'elle était de Lefebvre, parce que j'avais déjà entendu quelque part, il y a un jeune noble très, très orgueilleux qui fait devant le maréchal Lefebvre, qui étale sa généalogie, et le duc qui est excédé, le duc de Danzig, le maréchal Lefebvre, l'interrompt brusquement et lui dit vertement « Ne soyez pas si fiers de vos ancêtres, je suis un ancêtre, moi. » Ça, c'est beau.
Tout à fait. Ils avaient tous les deux vraiment de l'humour. S'ils n'avaient pas forcément une culture académique, encore une fois, ils avaient vraiment beaucoup d'esprit. Et je crois que c'est ça qui a retenu les mémorialistes et qui a vraiment intéressé plus tard Victorien Sardou.
De l'humour. Et puis, ils n'oubliaient pas leurs origines. Ils ne les reniaient pas, en tout cas. Contrairement à d'autres qui préféraient justement les oublier, mais qui n'hésitaient pas, aux Tuileries, à rappeler à Madame Lefebvre qu'elle n'était pas née duchesse de Danzig.
Comment faisiez-vous alors avec votre clientèle?
Hein?
Ma clientèle.
Oui, nous nous sommes laissés dire que vous aviez été...
Blanchisseuse, oui, Altesse.
Et vous pouviez laver le linge sale des autres.
Oh, c'est moi, j'étais blanchisseuse. Ah, ça vous la coupe. Et le plus drôle, c'est que si je n'avais pas été blanchisseuse, je ne serais pas là ce soir. On revient de loin tous. Elle n'y a pas s'en cacher. Regardez, Augereau. Sa mère était marchande de quatre saisons. C'est comme toi, Jourdan, qui était garçon de magasin. Et toi, oui. Masséna, t'as commencé en vendant des olives dans la rue, Murat. Le brave Murat. Qu'est-ce qu'il était, le roi de Naples? Valet chez son aubergiste père. Entre nous, on est une drôle de noblesse. On ne sent pas des croisés, on descend de nous-mêmes.
Raison de plus pour ne pas apporter à la cour les façons et le langage du corps de garde.
Et ce langage de corps de garde, effectivement, il plaisait pas à tout le monde. Elle avait pas mal d'ennemis à la cour, Christophe Régios.
Oui, la noblesse d'Ancien Régime vraiment voyait d'un très mauvais œil, si je puis dire, l'arrivée de cette parvenue parmi les autres. Mais enfin, elle, elle ne se taisait pas, elle était elle-même. Talleyrand, bien sûr, Chastenay, Madame de Rémusat, la duchesse d'Abrantès.
Madame Junot, oui.
Hein, Laure Junot, qui avait la langue bien pendue.
Ouais, c'est elle qui rapporte la plupart des anecdotes.
Tout à fait.
Qui discrédite la pauvre.
Tout à fait, oui.
La pauvre Madame sans gêne. Il y avait les sœurs de Napoléon aussi.
Les sœurs de Napoléon, qui ne l'appréciaient pas beaucoup. Hein. Peut-être qu'elles avaient aussi des choses à se faire pardonner aussi.
Alors cela dit, elle avait quand même des défenseurs, et heureusement très haut placés. D'abord Napoléon. Napoléon l'aimait bien, à l'évidence. Hein. Malgré les difficultés qu'il avait à essayer de la policer un petit peu, il aimait beaucoup la duchesse de Danzig, enfin la maréchale Lefebvre.
Oui, mais Napoléon, tout empereur qu'il est, va jouer quand même durant tout son pouvoir, hein, cette ambiguïté entre une révolution qu'il prétend sauver, prolonger, et en même temps instaurer un nouvel empire, hein, donc avec son étiquette, avec sa cour, etc. Il va jouer de cette ambiguïté tout le temps jusqu'à, un peu plus tard, Marie-Louise. Mais en tous les cas, pendant qu'il est marié à Joséphine, Joséphine elle-même, et n'étant pas une femme particulièrement...
De la haute noblesse.
Ce sont des gens qui se connaissent, qui sont connus pendant le directoire. Hein. Et Napoléon, de ce point de vue-là, il est fidèle, oui, il apprécie vraiment Catherine Hubschère, absolument.
Donc il la défend, bien qu'elle l'embarrasse un peu. Je crois même que dans les cours étrangères, on connaissait la réputation, le franc-parler de Madame Sans-Gêne. On s'en moquait en disant « Regardez-moi cette noblesse ». Et elle était devenue, au fond, l'incarnation de la noblesse d'Empire, c'est-à-dire la nouvelle noblesse. Bref, il l'a quand même défendu parce que Joséphine défendait aussi Madame Sans-Gêne. Je l'appelle comme ça, même si que plus tard, pour lui donnera ce surnom. En revanche, dès qu'il divorce et dès que Marie-Louise arrive à la cour, là, elle devient vraiment indésirable, Christophe Tagios.
Oui, alors Marie-Louise, c'est un coup de froid, si je puis dire, pour l'ensemble de la cour, pas simplement pour Catherine Hubschère, mais en particulier pour elle. Elle ne s'y retrouve pas. Je dirais, les codes ne sont pas tout à fait les mêmes. La décontraction, visiblement, ne lui est plus permise. Hein, et elle va se retirer de la cour. Oui.
Tandis que son mari, au contraire, continue à se couvrir de gloire. Il a près de 60 ans. Il part en Russie. Il est même, je crois, le premier. Il devient le patron de la garde impériale. C'est pas n'importe quoi. Il est le premier à entrer à Moscou. Et là, il se passe en Russie quelque chose de dramatique. C'est que un de leurs deux derniers enfants, Xavier, avec lequel ils ont eu beaucoup de problèmes, vous le soulignez, meurt pendant la campagne de Russie. C'est assez éprouvant quand même.
Oui, c'est un garçon...
Ils n'ont plus d'héritier, quasiment.
Non, ils n'ont pratiquement plus d'héritier. Xavier est un garçon... tête brûlée, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Ce qu'on pardonne aux parents, on ne le pardonne pas du tout à lui. Mais il a une fin de vie qui est tout à fait remarquable, qui est rapportée d'ailleurs par Louise Fuzzy, qui est une Française à la cour du Tsar, mais qui va revenir avec la retraite de Russie, qui va décrire sa fin, qui est tout à fait émouvante et qui montre un garçon attachant malgré tout. Absolument.
Et c'est aussi la fin de l'Empire. Alors à ce moment-là, quand l'Empire tombe en 1814-1815, il y a eu deux, on le sait, il était deux fois il a deux fois abdiqué, Napoléon, mais comment dirais-je, Madame Sans-Gêne, la duchesse de Danzig, Madame Lefebvre, reste fidèle à Napoléon, contrairement à son mari qui se rallie à Louis XVIII. Alors absolument. Là, elle lui en veut un petit peu. Hein. Louis XVIII, quand même, lui permet de garder ses titres, le fait chevalier de Saint-Louis, le fait entrer à la chambre des pairs, mais elle refuse d'aller à la cour.
Il ira quand même un petit peu au purgatoire. Hein,
oui, un peu. Mais elle refuse d'aller à la cour. Hein,
elle refuse d'aller à la cour. Elle ne rend pas hommage au roi, ce qui est quand même un acte politique fort presque. Mmh. Hein. Elle ne lui rend pas hommage, elle reste tout à fait fidèle à la mémoire de Napoléon.
Et puis alors, ça va durer longtemps. Son mari meurt en 1820. Elle mourra 15 ans après lui. Elle meurt sous Louis-Philippe à 82 ans. À l'époque, c'était rare d'atteindre cet âge-là. Et puis alors, complètement oublié, s'il y avait eu cette pièce de Victorien Sardou, il y a eu un opéra d'Umberto Giordano où le rôle était joué par Sarah Bernhardt. Il y a eu plusieurs films, dont le rôle justement de Madame Sangène, Gloria Swanson, Arletty, Sophia Loren, beaucoup plus belle que la vraie Madame Sangène. Hein, je la vois sur la couverture de votre livre, Christophe Najot, c'était pas une beauté. Hein.
Non,
elle avait sûrement du charme. Mais...
C'était pas une beauté, mais ça montre en tous les cas que dans l'imaginaire populaire, collectif, on s'est approprié le personnage et qu'on l'a transformé à la mode du jour, avec des canons qui correspondent plus à ce que les gens attendent. Il n'empêche qu'à chaque fois, le verbe reste haut, comique, plein d'esprit, plein d'humour.
Pourquoi est-il resté si populaire depuis cette pièce de Victorien Sardou jusqu'à aujourd'hui ?
Je crois qu'elle est restée populaire parce qu'elle est arrivée à un moment donné où Victorien Sardou a réhabilité d'une certaine manière Napoléon. Hein. C'était... Il y a un siècle déjà, peut-être impolitiquement correct, hein, de parler de Napoléon. Cette pièce, je crois qu'elle a à la fois réintroduit de manière soft, si je puis dire, le mythe de Napoléon, mais aussi avec une dimension populaire, donc quelque chose de plus accessible. Mmh. Et de ce point de vue-là, Catherine Hubscher, elle permet précisément de s'approprier cette histoire.
Merci Christophe Nagios. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de Madame Sangène, une femme du peuple à la cour de Napoléon. Publié en 2001 aux éditions Nuée Bleue. Vous avez pu entendre des extraits de Madame Sangène de Christian Jacques avec Sophia Loren dans le rôle titre, Robert Hossein dans celui du maréchal Lefebvre et Julien Berthaud interprétant Napoléon. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Renan Mahé, Claire Tesser, Camille Poux-Jalabier et Mathieu Ménossi et à notre réalisatrice Anne Kobilac.